que Vado sévit toutes les semaines dans le vif. Il sévit dans l'écho aussi depuis 13 ans, je pense, 11 ans. Il a fait beaucoup de choses, il vous racontera ça mieux que moi. Important à savoir pour nous, Vado, c'est pas un illustrateur, c'est pas juste un dessinateur. En fait, c'est un éditorialiste. Sauf que lui, il n'utilise pas que des mots. C'est surtout par dessin. Du coup, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais c'est le propre des éditos et des opinions. Ils ne sont pas là pour donner des leçons, mais pour dire comment l'auteur de cette opinion voit les choses, les gens, ce qui va et ce qui ne va pas. Souvent, c'est un très bel alibi, le dessinateur de presse pour les journalistes, parce qu'on se dit, on ne va pas nous trop se mouiller. De toute façon, si Vado est là, avec son dessin, il réglera l'affaire et nous, peut-être qu'on sera un peu plus prudent et un peu plus au tiède, ou que carrément on écrira sur peut-être des choses qui fâchent moins. Donc moi je suis très fier de travailler. Moi je suis Thierry Fiorilli, vous voyez, vous.
C'est le chef. Hein.
Ouais, ah oui, du vif. Mais je vous ai dit, je ne dis jamais de mensonges. Vous donnez la liste des journalistes. Tous.
Les deux éditorialistes qui écrivent, ils sont là. Il y a voilà. Là et Gérald.
Voilà, oui, mais ça. C'est, voilà. Donc,
lui, on le connaît.
Vous voyez.
Bon, mais il a coupé ses cheveux, ça change.
Ouais, c'est puis, bon.
Il est beau.
Trop tard. Vado, il a fait deux albums qui s'appellent Maudit Mardi. J'ai compris qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un dimanche pas top, quoi. Mais je m'y attendais, je m'y préparais. Donc voilà, je vais surtout lui laisser la parole parce que c'est lui qu'il faut écouter. J'insiste sur un plan, c'est pas des petits Mickey qu'il fait. C'est un métier très compliqué, très courageux, et comme vous le savez, qui est devenu hélas risqué. Je pense que même si on n'est pas 350 000 aujourd'hui, c'est un grand privilège que vous allez avoir de l'entendre. En tout cas, moi je suis ravi de travailler depuis 6 ans maintenant, et souvent la nuit du lundi au mardi, puisqu'on boucle le mardi et qu'il envoie ses dessins souvent le lundi, ou qu'il me tape le lundi avec ses dessins, de travailler avec un grand journaliste, illustrateur et opinionniste comme Nicolas Vado.
Merci. Bon, donc vous voyez technique, donc je crois que Thierry il va se balader avec son ordi pour vous le montrer. Mandin, qui est mon dernier bouquin qui est sorti en octobre dernier, il en reste quelques-uns avant en Russie, si ça vous intéresse après. Et je vous ferai une jolie petite dédicace. Il coûte 20 euros. Alors, tu peux passer le suivant. Suivant. Voilà. Mais ils vont rien voir du tout.
Vous voyez, il n'y a pas moyen de quoi qu'un PSB.
Un livre aujourd'hui quand même, qui est paru dans le vif de cette semaine. Parce que je trouve que le livre est important, surtout dans l'époque telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on a eu en début de semaine un nouvel avatar de l'horreur que représentent à mes yeux les réseaux sociaux, qui est cette affaire de la Ligue du LOL. On peut voir après. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Nous avons entendu parler de cette histoire de la Ligue du LOL. C'est...
Il était publié cette semaine.
Il était publié dans l'écho cette semaine, dans l'écho de mardi. Et en fait, quand on me demande pourquoi je ne suis pas sur Twitter, je dis parce que. Et ça, c'est bien la preuve. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait une idée à la con qui nous passait par la tête, en général, on la gardait pour soi. Mais maintenant, en général, on la tweet. Et moi, quand j'ai 10 idées dans la tête, en général, il y en a 9 qui n'ont aucun intérêt, que je ferais mieux de garder pour moi, et la 10e va devenir un dessin. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être sur Twitter, parce que je pense que si j'étais sur Twitter, je serais aussi con que les autres, et je raconterais des conneries. Sauf que les conneries que vous racontez sur Twitter, c'est pas comme les conneries que vous racontiez au bistrot avant. C'est des conneries qui vous suivent toute votre vie, et qui peuvent vous retomber sur la tronche 10 ans après, comme c'est le cas pour ces abrutis, qui étaient en plus des donneurs de leçons par rapport à MeToo. Et cette affaire de la Ligue du LOL, est à mettre en parallèle ou en miroir avec évidemment l'affaire Weinstein. On peut voir. Et toute la problématique de MeToo. Et donc, ça c'est un dessin que j'ai fait en page 3 du VIF il y a un an à peu près. Et quand l'affaire Weinstein est arrivée, c'était en, en octobre 2017. J'ai pas tout de suite pris la mesure du truc. On va voir le dessin d'après. J'ai fait un dessin dans l'écho sur Weinstein, en gros dégueulasse, comme ça, avec même une couille qui dépasse, et c'est passé sans problème. Et quand j'ai fait ce dessin-là, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même pas mes matières, c'est du people, c'est du fait divers, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ils ont pris, c'est passé. Et puis après, c'était vraiment le début de toute cette déferlante MeToo, et je pense que la Ligue du LOL, c'est un succès d'année de cette déferlante MeToo. J'ai fait d'autres dessins sur Weinstein, comme celui-là, et je restais encore dans la gaudriole 125 que j'ai fait pour le vif, parce qu'il y avait quelque chose qu'on trouvait, entre guillemets, relativement, et je pèse mes mots, rigolo. On ne s'est pas rendu compte au tout début que c'était vraiment le réceptacle de tout un mal qui ronge la société, c'est-à-dire le sexe, non pas comme acte, mais comme abus de pouvoir. Et donc, avec un type comme Weinstein, au début, j'ai fait des choses un peu rigolotes, et puis, évidemment, ça m'a rappelé une autre affaire qui était l'affaire DSK. On va voir. Et ça, c'est un dessin qui date de 2011, sur l'affaire DSK. Et ça, quand j'ai fait ce dessin-là aussi, en 2011, je me disais, bon, je vais faire ce dessin-là, ça va les faire marrer, mais ils vont jamais publier. Il faut savoir que quand je fais des dessins pour le vif ou pour l'écho, souvent, je leur envoie des trucs dont je sais très bien qu'ils vont pas les publier. Ils vont les accrocher aux valves du journal et puis ils vont se marier, ils vont dire mais t'es malade, on va pas publier ça. Et celui-là, ils l'ont pris et il a été publié et il a fait un carton. Et alors en plus le truc c'est que je n'arrivais pas à dessiner le visage de DSK. Que je trouve un subterfuge évidemment, mais DSK c'est pas quelqu'un qu'on reconnaît par son visage, on reconnaît plutôt par un autre attribut de son corps. Et donc c'est comme ça que ce dessin-là est arrivé. Ça, c'est un autre dessin qui est plus récent et qui montre que notre société est quand même un petit peu sclérosée dans le débat. C'est un dessin sur Damso. Alors moi, Damso, avant qu'il fasse l'hymne, qu'il soit pressenti pour faire l'hymne des Diables Rouges, moi, j'avais jamais entendu parler de ce mec-là. Je ne savais pas qui c'était. Je me suis renseigné. Et donc, je suis allé regarder les paroles de ses chansons qui sont épouvantablement sexistes. Et ce qui est étonnant, c'est que ce dessin, je l'ai montré dans une école, parce que je vais assez souvent dans les écoles. Je l'ai montré au mois d'octobre. Et il y avait beaucoup de filles dans l'assistance. Et les filles étaient très revendicatives par rapport à MeToo et par rapport à l'égalité des sexes. Je trouvais ça très bien. Et je montre ce dessin-là. Et là, ça a choqué tout le monde. Alors, je leur ai montré les DSK avant, ça ne les choquait pas. Ça les a choqués parce qu'ils disaient « Mais monsieur, comment osez-vous vous en prendre à Damso ?» Je dis « Bah écoutez, je m'en prends à Damso parce que quand même, ces paroles sont épouvantablement sexistes. » Ils m'ont dit « Non, vous ne pouvez pas vous en prendre à lui, vous ne comprenez pas, vous êtes un vieux, vous ne comprenez pas. » Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que je m'en étais pris à une idole. Et quand on s'en prend à une idole, quelle qu'elle soit, ça ne passe pas. Donc c'est pour ça que j'essaie de voir à quel point l'indignation des gens peut être à géométrie variable. On ne peut pas s'en prendre à Mahomet, mais on ne peut pas s'en prendre non plus à une célébrité. Et dès que je baisse quelqu'un de son piédestal, évidemment, là ça ne passe pas, et notamment vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des jeunes filles. Et ce qui était marrant, c'est que quand je parlais avec ces jeunes filles, les garçons derrière, souvent les filles sont devant, les garçons derrière, les garçons ils n'osent pas parler. Et on parle de sexisme. Et à un moment, je parle d'une fille qui met un décolleté, et j'ose dire, mais si une fille met un décolleté, c'est pour qu'on le regarde. Et là, je me fais fusiller par les filles en assistance qui me traitent d'épouvantable macho sexiste avec les mecs qui rigolent derrière, et je leur dis, oui, mais attendez, c'est pas parce que. J'ai dit que j'aime bien voir un décolleté, que j'ai envie d'aller mettre les mains dans le décolleté non plus. C'est ça qui est différent. Et 5 minutes après, je leur montre ce dessin-là, un gars qui fait des paroles sexistes, et ça, j'avais pas le droit de m'en moquer. Donc c'est ça qui est intéressant de voir comment le débat a été sclérosé, et notamment par les réseaux sociaux. Alors.
Est-ce que ce n'est pas juste pris par les filles au premier degré ?
Oui.
Il n'y a pas de recul, en fait.
Mais tout est pris au premier degré, c'est ça le problème. Et alors, c'est pour ça, et là, on peut voir le suivant, oui. Là, je vous fais un test. Ça risque d'être la couverture de mon prochain bouquin. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Il se trouve qu'il y a 10 jours, j'ai déjeuné avec un copain qui est scénariste, Yves Sand, qui est scénariste de Blake et Mortimer. Et puis, je parlais de mes projets, mon prochain bouquin. Et il me disait, oui, mais moi, ce qui me fascine vraiment, c'est comment, en 10 ans, comment est-on devenu tous aussi cons ? Je lui ai dit, ah, ça, c'est pas mal comme titre. Et donc, en utilisant, en partant des réseaux sociaux, pour aller au populisme et des choses comme ça sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais donc je pense que ça va être mon prochain bouquin, qui ne sera pas un bouquin chronologique, qui ne prendra pas les événements de l'année, parce que les événements de l'année, souvent, nous on est dans la presse, on ne les oublie pas, mais vous les oubliez. Ce qui s'est passé il y a un an, vous en foutez un peu. Et donc là, j'ai envie de faire un bouquin qui va parler de ce mal de la non-communication de notre siècle en partant des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Génération Facebook, j'ai écrit un mot sur ton mur discrètement, il y a écrit Roger, tu m'excites. Ça, c'est un dossier qu'on avait fait sur l'amour sur Internet, qu'on avait fait dans le Vif en 2012. Et à l'époque, déjà, j'étais très dubitatif par rapport à Facebook. Et quand je parlais notamment avec des plus jeunes, je leur disais, mais faites attention à ce que vous mettez sur votre mur Facebook. Parce que par exemple, sur votre mur Facebook, c'est comme si c'était le mur de votre maison. Le mur de votre maison, vous ne mettez pas toute votre vie privée dessus. Et c'est ça qui est, je trouve, étonnant et un peu inquiétant à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on met toute notre vie privée par terre et après, on s'étonne de ne plus avoir de sphère privée, justement. Et c'est ce que je voulais montrer dans ce dessin-là. Et donc, pour moi, Facebook fait ses maladies. C'est un dessin du livre qu'on a fait il y a 2 semaines. Facebook a 15 ans. L'âge bête. Mais donc, si vous lisez le livre, vous avez vu que moi, j'ai quitté Facebook il n'y a pas longtemps, où j'ai fait même autre chose, on va dire. On peut voir. Ça, je l'ai mis, mais je voulais qu'ils mettent ça dans le livre, mais je ne suis pas sur Tinder. Mais ma femme a vu ça, elle était un peu jalouse quand même. Mais je ne suis pas sur Tinder, mais je trouvais ça rigolo parce que j'ai des copines et des copains qui sont sur Tinder. Bon, ils sont célibataires, divorcés, je les comprends, mais alors c'est quand même le summum de la médiocrité affective Tinder. Et pourtant, tous les jeunes sont là-dessus. Et là, je me dis que je suis en train de virer réac parce que je vis dans un autre monde. Moi, je ne suis pas sur Tinder, je ne suis pas sur Twitter et je ne suis plus sur Facebook. Alors, j'ai quitté Facebook notamment à cause de ce dessin-là. Et alors, je n'ai pas quitté Facebook, j'ai fait pire. J'ai toujours ma page Facebook, mais j'y vais plus. C'est-à-dire, c'est comme si vous arrêtez de fumer et vous achetez un paquet de clopes et vous le mettez ouvert sur votre table de nuit. Il va vous tenter, mais vous ne devez pas y toucher. Donc ma page Facebook est toujours ouverte, mais je n'y vais plus. Alors pourquoi j'ai quitté Facebook ? Parce que le journal télévisé de la RTBF m'appelle pour la fin de l'année et il demande à Dubus, Kroll et moi de montrer le dessin que l'on préfère qu'on ait fait cette année. Moi, pour jouer un peu la provoque, j'ai montré celui-là. Et je dis, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'était une défaite de l'intelligence. Et alors là, les Gilets jaunes, il y a une chose qui leur manque, c'est l'humour en général, en plus de l'intelligence. Mais, et donc je monte ce dessin-là, et là il y a des gens qui me tombent dessus sur Facebook à cause de ce dessin-là, et il y en a un qui commence à m'écrire, et qui dit en parlant à un autre, oui c'est sûrement un parvenu, petit bourgeois, machin, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie, il ne me connaît pas. Et j'ai commencé à avoir une discussion avec ce gars, et c'était le 2 ou 3 janvier, j'avais autre chose à foutre que de parler avec ce mec-là, et donc j'ai commencé à écrire sur Facebook, et à discuter avec lui. Et plus je discutais, plus le gars se rendait compte que j'avais pas une pensée binaire comme il le pensait, mais qui était empreinte de doutes et de plein de choses comme ça. Et donc, petit à petit, la discussion s'amorce, et ça commence à bien se passer, et j'arrive petit à petit à le faire pas changer d'avis, mais en tout cas à réfléchir à d'autres points de vue. Et je lui dis aussi, c'est une défaite de l'intelligence, mais ça peut aussi aller chez des gens intelligents. Et plus j'arrivais avec des arguments qui commençaient à être irréfutables, plus il perd des pieds, et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a insulté, et il m'a dit « Restez avec vos gribouillages ». Et là, je me suis dit « Ben voilà, voilà ce que c'est Facebook ». Myriam Leroy m'a dit l'autre jour « T'as bien fait de quitter Facebook, parce que Facebook, c'est comme si t'invitais des cons dans ton salon ». Ben non, tu peux ne pas inviter des cons dans ton salon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me « retirer », entre guillemets, des réseaux sociaux qui m'ont jamais vraiment plu. Et j'ai la chance de publier dans le Vif, dans l'Écho. Il y a le site du Vif, il y a le site de l'Écho. Donc c'est pas comme si j'étais coupé du monde. Et j'ai gardé Instagram, qui pourtant appartient à Facebook. Mais j'y vais vraiment de manière parcimonieuse. Mais c'est ça qui est intéressant. Quand je fais un dessin comme ça, je sais très bien que ce genre de dessin va déranger, va choquer les gens. Et c'est le but du jeu. Si je fais un grand jet d'eau tiède, un dessin qui dérange personne, c'est un grand jet d'eau tiède et ça servira à rien. C'est aussi là qu'est mon rôle en tant que dessinateur de presse par rapport au reste du journal.
Abatou, chez vous, c'est peut-être
Madame Ronchard disait Abatou il y a 25 ans, et en fait, Madame Ronchard, elle est née avec l'affaire du trou.
Ah, bien sûr. avec Gédéon.
Avec Gédéon, voilà. Félicite, vous êtes un lecteur très fidèle. Elle est née avec l'affaire du trou, et si vous prenez ce qu'on entendait au moment de l'affaire du trou, c'est tous des pourris, c'était des pédophiles à l'époque, vous remettez ça aujourd'hui et c'est exactement la même chose. Mais imaginez l'affaire du trou s'il y avait eu les réseaux sociaux. Mais si vous vous souvenez à cette époque-là, au moment de l'affaire du trou, moi j'étais beaucoup plus jeune, mais on voyait des pédophiles partout. On regardait tous notre voisin en se disant, tiens, celui-là, il n'aurait pas quand même une tête de pédophile. Mais il n'y avait pas l'amplitude des réseaux sociaux, ce qu'il y a maintenant. Et donc, Madame Bronchard, elle est née à ce moment-là et elle disait « Ah bah tout !» Et à tel point que j'ai fait une fausse interview de Madame Bronchard où elle veut porter plainte contre les Gilets jaunes parce qu'ils l'ont tout piqué. Et voilà. Et donc, quand je fais ce dessin-là, je suis désolé, pour moi, dans ce mouvement des Gilets jaunes, même s'il y a au départ des revendications qui peuvent être légitimes, ça a quand même tourné méchamment aigre jusqu'à hier où Alain Finkielkraut, je ne sais pas si vous avez vu ça, a reçu des insultes antisémites par les Gilets jaunes. Ce mouvement est cornaqué par l'extrême droite. Il n'a pas été créé par l'extrême droite, mais il est encadré par l'extrême droite. Et Daniel Cohn-Bendit avait dit un truc très juste. Il avait dit, la différence entre les Gilets jaunes et mai 68, c'est que nous, on voulait foutre un général à la retraite, eux, ils veulent en mettre un en place. Et ça, je trouvais ça assez fort comme phrase de la part de Daniel Cohn-Bendit. Alors, à la suite. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez, il y a marqué le mouvement qui s'inscrit dans la durée, découvrir la France, le Mont-Saint-Michel, le Moulin Rouge, les Gilets jaunes, chaque samedi. Est-ce que c'est devenu un peu une tradition? Ils étaient 10 000 hier, 3 000 à Paris. Mais apparemment, maintenant, je veux un peu les banaliser aussi, parce que le problème de ce mouvement, c'est comme il ne peut pas structurer puisqu'il refuse d'avoir un chef, et bien, il est forcément condamné à se réduire comme peau de chagrin. Mais selon les... Ils ne se rendent pas compte, parce que c'est des Français, c'est un Français qui vous le dit, ils ne se rendent pas compte comment le reste du monde les regarde. Il se trouve que moi, j'ai habité à l'autre bout de la planète, en Australie, pendant 6 ans, et j'ai vu l'Europe, la Belgique, la France, de manière différente. Et donc, quand les étrangers regardent ce qui se passe en France, c'est-à-dire un pays absolument irréformable, et quand quelqu'un essaie de le réformer, on voit ce qui se passe, les gens sont atterrés par ce qui se passe en France, mais les Français ne s'en rendent pas compte. Et les médias français, pour moi, ont une grande responsabilité parce qu'ils ont tellement été perçus comme étant du côté de l'establishment, du côté du pouvoir, que tout à coup, ils ne peuvent pas se dire qu'on peut critiquer un mouvement qui critique les élites. Sinon, ils sont eux-mêmes des élites, mis de côté. Et c'est ça qui fait que le débat est complètement sclérosé en France, beaucoup plus qu'il ne l'est en Belgique, je pense.
Tout à fait.
Alors, évidemment, parfois, je peux mélanger. Ça, c'est un dessin qui date de début novembre, publié dans Le Vif. Et là, je me suis fait engueuler par mon rédacteur-chef à l'écho parce qu'il me dit « Mais pourquoi t'as filé ce dessin au Vif? C'est à nous que tu devais le donner. » Je dis « Ah oh, mais non, désolé, parce que lundi et le mardi, j'ai mes deux journaux en même temps. » Et donc, quand je fais ce dessin-là, c'était au moment... C'est une époque très très lointaine, si vous vous souvenez, c'est quand Macron est venu en Belgique, reçu par Charles Michel, et ils ont même fait une conférence, c'était à l'UCL, je ne sais plus. À l'époque, il y en avait un qui était président français qui tout réussissait, et l'autre qui était le premier ministre de la coalition suédoise. C'est-à-dire une éternité, il y a la préhistoire, quoi. Et donc j'ai fait ce dessin-là, et à l'époque, il n'était pas du tout question de foutre les gilets jaunes dehors, mais j'avais tout de suite fait la corrélation entre les gilets jaunes de la NVA et les gilets jaunes français. Et donc je me suis servi de ça pour passer ensuite à la politique belge, et notamment à la crise politique belge.
En parlant, je travaille dans un groupe français,
ouais.
Vinci pour ne pas le citer, et vous aviez fait, à l'élection de Macron, vous aviez fait...
Un dessin extraordinaire, c'était Macron en macronarchie, Louis XIV,
oui.
Puisqu'il voulait faire son premier gros conseiller des ministres à
Versailles.
À Versailles. Et alors, la première chose que j'ai fait, c'est copier le dessin et l'envoyer à mes amis français, enfin mes collègues français, qui ont dit mais regarde, c'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Il a tout pigé, HDB, il a tout compris.
Ah oh ben c'est gentil.
Voilà.
Voilà. Bon, mais je suis français, j'ai moins d'excuses. J'ai moins d'excuses. Alors.
Donc les Français voilà. Peuvent comprendre.
Les Français peuvent comprendre, c'est rare, hein, ils peuvent. Alors, la crise politique en Belgique, ça c'était le mois de décembre le plus chargé que j'ai eu toute ma vie. Parce que on a eu plein de choses en même temps. Il y avait les Gilets jaunes, il y a eu le Brexit sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et puis il y a la crise politique belge. Alors, il faut savoir que je travaille en hebdomadaire et en quotidienne. Donc en hebdomadaire, je fais les dessins le lundi soir jusqu'à 1h du mat, puis je fais les corrections le mardi, et le mardi à 13h, les quatre dessins du Vif Express partent pour l'impression, pour l'un qui sort le jeudi. Alors, je suis en quotidienne, donc l'écho sort du mardi au samedi. En quotidienne, le bouclage, c'est 22h30 grand maximum. Et parfois, on peut pousser. Mais dans le cas de la crise politique belge, on ne savait pas exactement où ça allait. Et il y a eu cette histoire de Marrakech. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait le jour où Bart De Wever n'avait pas encore dit qu'il irait ou qu'il irait pas à Marrakech. Et donc, j'ai fait ce dessin-là, il était bon jusqu'à 19h, et puis à 19h, l'ANV a dit « Ah ben non, s'il est à Marrakech, nous on retire la prise. » Donc le journal m'appelle, ils me disent « Ah ben voilà, vous devez absolument, il faut que tu refasses un dessin parce que celui-là est plus bon. » Donc j'ai fait celui d'après. J'ai pris la même idée, sauf que j'ai descendu, évidemment, Bart De Wever en inversant les deux animaux. Et donc c'est ça, quand on fait du dessin politique, on doit faire très attention à être toujours au fait de l'actu, de ce qui se passe rapidement. Et ensuite, il y a eu d'autres dessins, je vais aller plus vite parce que... Pour conclure, ah ben c'est chouette. Je crois qu'il y a 20 minutes, il y a 2 minutes. On va vous montrer après. Après. Ça, c'est un dessin que j'ai fait le 9 décembre, c'est-à-dire le jour où le gouvernement est tombé. Et là aussi, on a fait un journal qui était le dimanche, un journal pour le web. Et c'est un journal où on m'a dit...